Aujourd'hui, dans Affaires Sensibles, la scission au Front National ou le combat entre Jean-Marie Le Pen et Bruno Maigret. C'est sans doute l'une des affaires au sein d'une famille politique les plus sensibles et les plus spectaculaires de la Ve République, les plus brutales également. D'août 1998 à janvier 1999, nous avons assisté jour après jour à un drame shakespearien de ceux qui n'offrent qu'une alternative, un survivant, donc un mort. En politique, il n'y a pas plus violent qu'une querelle de famille, surtout lorsque l'un veut devenir calife à la place du calife et que ce dernier, guerrier dans l'âme, est à la tête d'un parti de culture quasi-militaire. Jean-Marie Le Pen, le chef genre « je commande » dont je suis, est un autodidacte à la fois bourgeois et populaire, à vrai dire populiste, colérique et furieux. L'autre, Bruno Maigret, est un animal à sang-froid, haut fonctionnaire, posé, méticuleux. Une idée les rassemble toutefois, un rêve commun, celui d'une France retrouvée, sans Europe, avec le moins d'étrangers possible, protégée derrière ses frontières. Aujourd'hui, le Front National vit une nouvelle crise, moins axée sur les questions de personnes, en apparence du moins. Une crise issue de la présidentielle de mai dernier, l'échec de Marine Le Pen, qui fait dire aujourd'hui à Florian Philippot, l'autre grande figure de cette famille de pensée qui a claqué la porte du FN, que ce parti est devenu un astre mort. L'est-il vraiment? Le FN manque-t-il de cette taille critique nécessaire pour gagner une présidentielle en France? Bref, le Front National est-il une impasse, comme semble le dire Philippot? Notre invité aujourd'hui, Guillaume Daudin, journaliste à l'agence France Presse, spécialiste du Front National. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Jean Bulot, coordination Christophe Barrère, réalisation Fabrice Lègle, Jérôme Chélius et Coyenne Guyen.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
Quand vous pensez à votre succession, parfois, ça vous arrive? Quel est votre successeur de rêve à la tête du Front National?
Quand je pense à la mort, j'y pense souvent, c'est oui, normal d'ailleurs.
Mais à votre fin politique, on peut dire.
Mais vous savez, la mort frappe indistinctement, et pas toujours ceux que l'on pourrait croire les plus visés.
Comme la question a été mise d'ores et déjà sur la place publique, j'ai simplement fait savoir que j'étais en effet candidat.
Je n'abandonnerai pas la barre du navire à une poignée de lieutenants et de quartier-maîtres félons.
Il n'y a aucune guerre des chefs, il y a simplement un débat.
J'ai décidé de les sanctionner en frappant la conjuration à la tête.
Le Front National n'appartient à personne. Il appartient aux militants.
Et à l'intérieur, il n'y a pas d'ennemis.
Ah, je ne crois pas. Mais s'il y en a, ben on les débusquera.
Maigret. Un garde. Maigret.
Le 9 février 1997 à 21h30, la ville de Vitrolles se jette dans les bras de l'extrême droite. Ce soir-là, la commune provençale et le nom de son nouveau maire font la une. En 1995, Bruno Maigret avait perdu l'élection de quelques voix. Après l'annulation de ce scrutin, il n'avait pas eu le droit de se présenter parce qu'il avait dépassé les fonds de campagne autorisés. Ne pouvant être candidat, c'est sa femme qui fit campagne en son nom. Au Front National, la politique est une affaire de famille, c'est bien connu. Ainsi, le 9 février 1997, Catherine Maigret gagne officieusement l'élection devant le candidat socialiste Jean-Jacques Anglade. Mais un peu comme une femme à qui l'on pose une question et qui répond « Oh là, faut que je demande à mon mari ». C'est Bruno Maigret qui prononce le discours de la victoire.
Ce soir à Vitrolles, le mur est tombé. La digue adverse a cédé, sans effet de surprise, sans circonstance particulière. Dans une bataille frontale, seul contre tous, notre mouvement a vaincu. Et cette victoire est historique, car elle prouve la capacité du Front National à l'emporter demain dans toute la France. Malgré les intimidations, les mensonges, les pressions, la diabolisation, les machinations et le Front Républicain, nous avons pu rassembler ici une majorité de nos compatriotes comme nous le ferons demain à l'échelle du pays.
Pour tous les observateurs, le 9 février 1997 constitue la plus belle victoire du délégué général du Front National. Une histoire qui a débuté 12 ans plus tôt, le 10 octobre 1985, dans un restaurant du 7e arrondissement. Ce jour-là, Bruno Maigret lit son destin à Jean-Marie Le Pen. C'est l'époque des premiers succès du Front National, ceux des cantonales de 1983, dont Dreux fut le symbole, mais surtout ceux des européennes de 1984, où le parti d'extrême droite français dépasse la barre symbolique des 10% aux élections. Avec 9 autres candidats, Jean-Marie Le Pen entre au Parlement européen. En 1985, Bruno Maigret, lui, est un inconnu. Il a 36 ans, il est polytechnicien. Haut fonctionnaire, il fait ses armes administratives au commissariat général au plan et au cabinet ministériel de la coopération. Au niveau politique, il est un enfant de la nouvelle droite, une mouvance ultra-conservatrice. Ses membres se retrouvent au sein de clubs de pensée comme le GRES, Groupement de Recherche et d'Études pour la Civilisation Européenne, ou le Club de l'Horloge, outil indispensable pour construire les bases d'une contre-culture de droite concurrente de l'idéologie socialiste et marxiste. La nouvelle droite prône entre autres la préservation de l'identité ethnique et culturelle des peuples européens face à l'immigration. En janvier 1982, Bruno Maigret lance son club d'idées, les CAR, Comité d'Action Républicaine. C'est ce parcours, ce réseau et ce club que Bruno Maigret offre aux candidats frontistes lorsqu'il le rencontre au restaurant 3 ans plus tard. Et en guise de viatique, il obtient une circonscription en Isère dont il est élu 1 an plus tard député comme 34 autres candidats du Rassemblement National. Commence alors l'ascension du nouveau venu. En décembre 1986, Bruno Maigret est nommé directeur de campagne de Jean-Marie Le Pen pour l'élection de 1988. À la suite de cette campagne présidentielle, il est nommé délégué général. Il devient l'un des hommes du front et même le second du président. Durant ses premières années, l'implantation du FN dans le champ politique français se concrétise malgré les dérapages et les coups de force de son président. Dans l'ombre de celui-ci, Bruno Maigret prend en charge la réorganisation du parti. Il s'entoure de fonctionnaires et de technocrates et met en place de nouveaux outils alliant propagande moderne et formation continue des élus. En gros, il professionnalise le FN. En mars 1997, quelques semaines après sa victoire à Vitrolles, il est la vedette du congrès du parti. Son nom est scandé, ses livres se vendent comme des petits pains. À l'élection du comité exécutif, il remporte haut la main le scrutin devant l'éternel perdant au Front National, Bruno Gollnisch. Bref, monsieur se sent pousser des ailes. À la fin du congrès, à la tribune, en guise de conclusion, le président Jean-Marie Le Pen lui pique même une formule, l'alternative nationale. Mais est-ce un hommage ou une pique contre son délégué général ?
L'alternative nationale, c'est le rétablissement de la suprématie de la loi française sur les lois étrangères, traités, recommandations et directives européennes. L'alternative nationale, c'est l'établissement du principe de préférence nationale, c'est la réforme du code de la nationalité et l'abrogation des dispositions du droit du sol et de la double nationalité. La suppression du regroupement familial, l'établissement de la carte de séjour d'1 an au lieu de 10, l'organisation du regroupement familial dans le pays d'origine. Notre mission n'est pas seulement une mission électorale, une mission politique. C'est une mission historique vis-à-vis de la France et des Français d'abord, mais aussi vis-à-vis des peuples d'Europe et de tous les peuples du monde qui veulent garder leur identité nationale.
C'est sur le plan idéologique, entre les deux hommes, l'entente cordiale règne, c'est clair. Non, c'est sur la manière de mettre en place leur programme, d'atteindre le pouvoir, que les divergences apparaissent. Et quelques jours après le congrès, une décision de Jacques Chirac va provoquer les premières frictions publiques sur ce sujet entre les deux hommes. Il se trouve que le 21 avril 1997, le président annonce la dissolution de l'Assemblée nationale. Pour le FN, c'est une aubaine, le parti n'a jamais été aussi puissant. Mais très vite, malgré les bons sondages, revient la lancinante question de la consigne de vote au second tour. Faudra-t-il ou non appeler à voter pour les candidats de droite ? Pour Jean-Marie Le Pen, c'est non et c'est catégorique. Lors de l'interview, il indique même une certaine préférence pour une majorité de gauche. Pour lui, l'UMP, en quelque sorte, c'est le PS Empire. Face à ces déclarations, et pour la première fois, Bruno Maigret désavoue son président. Pour lui, le FN est un parti de droite. Un militant du Front ne peut en aucun cas souhaiter l'arrivée d'un gouvernement de coalition de gauche. Ce serait contre nature. Pour Bruno Maigret, la route vers le pouvoir doit passer, selon certaines conditions bien sûr, par une union avec les candidats des partis de droite classiques. Ce choix présente l'avantage d'implanter durablement le FN dans les territoires et de l'inscrire dans la respectabilité. Toujours est-il que la controverse de la consigne de vote au second tour n'ira pas plus loin. Car le 30 mai, entre les deux tours des législatives, une frasque de Jean-Marie Le Pen va une nouvelle fois faire la une et marginaliser le FN. Les deux protagonistes de notre histoire ne le savent pas encore, mais le ver est dans le fruit.
Le ver, fasciste, assassin ! Le ver, fasciste, assassin !
Vendredi 30 mai 1997, Mantes-la-Jolie. Jean-Marie Le Pen est de passage pour soutenir sa fille Marie-Caroline, arrivée en tête au premier tour de la 8e circonscription des Yvelines. Et comme à chaque déplacement de Jean-Marie Le Pen, un comité d'accueil attend. Ce jour-là, parmi ses opposants, il y a la candidate socialiste, Annette Pelvas-Berjal. Logiquement, les deux groupes se font face, à distance, séparés souvent par les forces de l'ordre. Mais ce jour-là, la voiture du président frontiste s'arrête à la hauteur du petit groupe. Jean-Marie Le Pen sort et se dirige vers eux. Et là, tout bascule. Devant les journalistes, il est hors de lui, incontrôlable. Il joue les gros bras, accompagné de ses gardes du corps. Dans la bousculade, la candidate socialiste se retrouve plaquée contre un mur. Jean-Marie Le Pen l'interpelle et s'agrippe violemment à elle.
J'ai compris, on en a marre !
Face à la violence du président frontiste, deux policiers des renseignements généraux s'interposent pour protéger la candidate socialiste. Malgré cette situation très gênante dans une démocratie mature, Jean-Marie Le Pen poursuit sa visite avec sa fille, Marie-Caroline. Il revoit les opposants au loin et décide de retourner à la bagarre. Essoufflé, mais heureux de montrer une virilité retrouvée.
Je vais faire courir, moi, tu vas voir le rouquin là-bas. Hein ? PD !
Ah, ça m'a rajeuni !
Ça va ?
Le soir même, les images de l'altercation et les sanglots d'Annette Pelvas-Berjal font la une. Le vrai visage du Front National, un parti violent et autoritaire à l'image de son chef, semble jaillir à l'écran. Le même jour, la candidate socialiste porte plainte. Une nouvelle fois, le président du Front National devra passer par la case justice. Mais rien n'y fait, il ne change pas ses habitudes. En décembre 1997, lors d'un voyage à Munich où il est venu rendre visite à l'un de ses amis, Franz Schönhuber, un ancien Waffen-SS, Jean-Marie Le Pen réitère ses propos au sujet des chambres à gaz, qu'il considère comme, je cite, « un détail de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale ». Nouvelle polémique, nouvelle procédure judiciaire en Allemagne et en France pour contestation de crimes contre l'humanité. Pour les éditorialistes, comme au sein du Front National d'ailleurs, la question de l'après-Le Pen devient une vraie question. Le 14 décembre 1997, quelques jours après le scandale de Munich, le journaliste Paul Guibert et Michel Cotta interrogent directement Jean-Marie Le Pen sur sa succession.
Quand vous pensez à votre succession, parfois, ça vous arrive ? Quel est votre successeur de rêve à la tête du Front National ?
Quand je pense à la mort, j'y pense souvent, c'est normal d'ailleurs.
Mais à votre fin politique, on veut dire.
Mais vous savez, la mort frappe indistinctement. Et pas toujours ceux que l'on pourrait croire les plus visés.
On n'est pas en train de demander ça, naturellement, on est en train de demander si vous aviez un successeur idéal.
Écoutez, nous sommes un parti démocratique. La succession du président sera décidée par le Congrès. C'est le Congrès qui choisira le meilleur candidat, celui qui sera capable de maintenir la cohésion et de continuer la progression constante que le mouvement a connu sous ma présidence, en tout cas, depuis 1974 jusqu'à maintenant.
Le 2 avril 1998, la justice donne un premier élément de réponse. Dans l'affaire de Mantes-la-Jolie, Jean-Marie Le Pen est condamné à 2 ans d'inéligibilité. Ce premier jugement est catastrophique pour le leader frontiste, car si la condamnation est confirmée en appel, il ne pourra pas se présenter aux élections européennes. Et donc, dans ces conditions, qui prendra en charge la campagne ? Bruno Maigret ? Ça paraît logique. Sauf que le président frontiste a une autre idée. Juillet 1998, hôtel particulier de Montretout, Saint-Cloud. C'est au domicile de Jean-Marie Le Pen que se déroule le comité exécutif du parti, auquel Bruno Maigret assiste. Sujet après sujet, le comité aborde les questions quotidiennes de la vie du parti, les finances, l'université d'été, les formations, la situation dans telle ou telle circonscription. Puis il aborde le dossier sensible des élections européennes. Qui pour le remplacer? Et là, il répond Jeannie. Oui, Jeannie, et sa femme, la femme de Jean-Marie Le Pen. Bruno Maigret ne dit pas un mot, comme pétrifié par la gifle qu'il vient de recevoir. Il accepte le coup, puis revient à la charge lors d'une entrevue avec le président. En vain, le 20 juillet 1998, Jean-Marie Le Pen officialise dans la presse la solution Jeannie comme possible remplaçante. Le lendemain, la femme du président semble aussi interloquée que les journalistes qui l'appellent. Après cette déclaration, elle décline l'offre, prétextant qu'elle préfère sa vie de femme au foyer à celle des campagnes politiques. Mais bon, son mari est le chef, elle obtempère. Pourtant, au sein du parti, la décision de Jean-Marie Le Pen ne passe pas. Bruno Maigret décide alors de sortir du bois. Le 24 août, au premier jour de l'université d'été du Front National, à Toulon, il sonne la révolte dans les pages du Parisien, puis au micro de France Inter.
Je souhaite que Jean-Marie Le Pen soit candidat et que la scandaleuse décision qui le rend inéligible soit infirmée par la Cour d'appel. Mais comme la question a été mise d'ores et déjà sur la place publique, j'ai simplement fait savoir que j'étais en effet candidat, parce que lorsqu'un chef est empêché, c'est ce second qui le remplace, et que la candidature de Mme Le Pen, quelle que soit l'amitié que je lui porte, ne me paraît pas être une bonne idée. Il n'y a aucune guerre des chefs, il y a simplement un débat sur la prochaine tête de liste. Si Jean-Marie Le Pen n'est pas éligible, ce débat sera tranché, et je serai le premier à m'incliner devant la décision des instances. Le Front National sera uni et déterminé aux élections européennes autour de sa liste.
Pour la première fois, publiquement, Bruno Maigret s'oppose frontalement à Jean-Marie Le Pen. La charge du délégué général contre le président est double. Non content d'indiquer que la candidature de Jeannie est une fausse bonne idée, Bruno Maigret demande un vote du comité central concernant la désignation de la tête de liste, mettant ainsi en question l'autorité du président. Pendant trois jours, dans les coursives du palais Neptune de Toulon, l'ambiance est électrique. Au micro des journalistes, les dignitaires de chaque camp lancent leur première pique. Le 27 août, trois jours après l'acte de candidature de Bruno Maigret, Jean-Marie Le Pen arrive enfin à Toulon. La mine bronzée, la mine réjouie, il fait comme si de rien n'était. Pendant toute la matinée, les deux hommes s'évitent soigneusement. Entre deux poignées de main et des photos avec les militants, Jean-Marie Le Pen sort de son silence et répond à la polémique.
Malheureusement, il fait ses confidences plutôt à la presse qu'au président, semble-t-il. Il devrait pourtant avoir de bonnes raisons de se méfier, non? Et au Front National, c'est le président qui établit la liste des européennes et qui la conduit, en général. Vous savez, j'ai l'habitude de l'adversité, j'ai l'habitude des déclarations contradictoires. Le Front National a été fondé par Jean-Marie Le Pen, conduit par lui depuis 25 ans, ma foi avec un certain succès, compte tenu de l'adversité et du nombre de ses ennemis. Par conséquent, il n'y a pas de raison que cela ne se poursuive pas, tant au moins que le bon Dieu m'en donnera la force. Et jusqu'ici, ma foi, ça a l'air d'assez bien.
À l'intérieur, il n'y a pas d'ennemis.
Ah, je ne crois pas. Mais s'il y en a, ben on les débusquera.
En fin de journée, les deux hommes se rencontrent, enfin, et à huis clos. La colère du chef est glaciale, ferme. Mais à la sortie, les deux hommes prennent la pause autour d'un verre de l'amitié. Pour le président, il ne s'agit que d'une tempête dans un verre d'eau, rien de plus. Mais lors de son dernier discours, et pour éviter toute nouvelle prise de liberté de l'un de ses seconds, Jean-Marie Le Pen rappelle à ses détracteurs qu'il n'y a, je cite, qu'un numéro un, lui-même. Si la justice l'autorise, il sera la tête de liste aux européennes de 1999. En attendant, la lutte entre les deux clans se poursuit et s'intensifie.
Yo! Yo, rude boy! Jaguar Gorgon, cool chain, lock the city, come back and gang the man! Everyone from the truck!
Every time I'm coming with Velcro!
For real!
He come again with different size!
Laisse-moi zoom zoom zen dans ta Benz Benz Benz. Girl, quand tu whine, ton bon passe avant gang gang gang. Laisse-moi zoom zoom zen dans ta Benz Benz Benz. Girl, quand tu whine, ton bon passe avant gang gang gang. Mais girl, t'es sexy, viens voir Co City. Original Wakaman dans la ville de Paris. Girl, t'es jolie dans ton Versace. Viens t'amuser avec un DJ top celebrity. Et c'est wine bouge, carré sur le groove. J'aime les girls, surtout quand les girls move. Hey ya, move up.
move up, rough comme une loupe, bouche au corps de la tête aux pieds. Et là je t'approche, move up, girl wine ton body. Montre-leur que t'as pas peur d'exciter tous les bandits. Ouais comme une vipère si t'as le savoir-faire. T'inquiète pas, y'a pas de galère, je le dirai ni à ton père ni à ta mère. Ondule comme un ver de terre, jette-moi dans les yeux ton regard de panthère. Laisse moi zoom zoom fun dans ta Benz Benz Benz. Girl quand tu wine ton bon passe à mon dun dun dun. Laisse moi zoom zoom fun dans ta Benz Benz Benz. Girl quand tu wine ton bon passe à mon dun dun dun. Laisse moi zoom zoom fun dans ta Benz Benz Benz. Girl quand tu wine ton bon passe à mon dun dun dun. Laisse moi zoom zoom fun dans ta Benz Benz Benz. Girl quand tu wine ton bon passe à mon dun dun dun.
Killer. Audio explique là.
Ça se passe à l'arrière du Merco Benz Benz Benz.
Ouais, du côté de Sunny, baby. Je garantis qu'il y a que des dingues, dingues, dingues.
Et ma mère, je suis la flèche que ton entrejambe attire, amour de Lufia. On vivra en nos troupes, toi et moi. Mais ce soir, faut que ça brille, faut qu'on enquille. Je veux du freestyle. Je veux que tu réveilles, tu stimules mon côté bestial. Pomme, bébé, monte sur mon scène, scène et fond. Je te la ferai façon, je te cueille. Putain, y'a que ça qui me rend junk. À ton contact, je deviens liquide.
Liquide.
C'est comme un trou intemporel. Bouge ton corps de feu. Ouais.
Regarde le long de tes hanches, je coule. Ondule ton corps, bébé, ouais, ok, ça roule. Je deviens saisissable à ton contact, l'air est humide. C'est comme une étincelle dans ton regard à vie.
Laisse-moi zoom zoom fun dans ta Benz Benz Benz. Girl, quand tu wine ton bon passe à mon dung dung dung. Laisse-moi zoom zoom fun dans ta Benz Benz Benz. Girl, quand tu wine ton bon passe à mon dung dung dung. Laisse-moi zoom zoom fun dans ta Benz Benz Benz. Girl, quand tu wine ton bon passe à mon dung dung dung. Laisse-moi zoom zoom fun dans ta Benz Benz Benz. Girl, quand tu wine ton bon passe à mon dung dung dung.
Ce soir, faut qu'on se fâche. Bébé, faut qu'on se clash, clairement, ouais, faut pas qu'on fasse ça bêtement. Donc move ton body, fais bander les bandits, puis ton bande a brandi. Le temps sortira grandi, tu sais ce qu'on dit. Faut que ça glisse, et puis que ça transpire. Ça me fout en transpire, faut plus que je respire. Tu te donnes moi, donne-toi, donne tout ce que t'as. Putain, c'est fou ce que t'as, comme talent, mais où ce que t'as. Appris tout ça, après tout ça, je m'en fous, je veux juste que tu puisses me kiffer jusqu'à l'eau. Donc vas-y, monte sur mon scène, c'est du fond.
Yeah, man, 93 style. Laisse-moi zoom zoom fun dans ta Benz Benz Benz. Girl, quand tu wine ton bon passe à mon dung dung dung. Laisse-moi zoom zoom fun dans ta Benz Benz Benz. Girl, quand tu wine ton bon passe à mon dung dung dung.
Hey girl, si tu vois une merco noire arriver avec les vides d'un booming system, c'est ma Benz Benz Benz. Et on va zoom zoom zing avec Jaguar, Gorgon et Cool Shake.
SP baby,
93 style.
Le constitue
all about wine of respect, wine.
Yeah, yeah. Good to say, West Indies, we are the best.
Le 20 septembre 1998, dans l'émission Dimanche Politique, Bruno Maigret réitère sa candidature pour la tête de liste des Européennes. Le 28 septembre, le jour même de l'ouverture du procès en appel à Versailles, Jean-Marie Le Pen lui répond à sa manière en annonçant par voie de presse que c'est Jean-Claude Martinez, ennemi affiché de Bruno Maigret, qui sera le directeur de campagne des Européennes. Nouvelle gifle. Jour après jour, le président reprend la main. Jean-Marie Le Pen organise la campagne, place ses hommes et isole les proches du délégué général. Le 17 novembre, le verdict de la cour d'appel de Versailles tombe. La peine d'inéligibilité du président frontiste est réduite de 2 à 1 an et offre ainsi à Jean-Marie Le Pen la possibilité de se pourvoir en cassation et donc de se présenter aux élections européennes de 1999. Bien, l'histoire aurait pu s'arrêter là. Le président prenait la tête de liste et Bruno Maigret la seconde place. Voilà. Mais le Front National n'est pas un parti comme les autres. Jean-Marie Le Pen n'accepte pas la montée en puissance de Bruno Maigret. Alors, libre de ses mouvements, il va désormais tout mettre en place pour mettre fin à l'influence du délégué général Maigret, à la manière du gendre de Barry Lyndon à l'encontre de son beau-père. Le 20 novembre, 3 jours après la décision de la cour d'appel de Versailles, Jean-Marie Le Pen convoque le responsable des ressources humaines du FN et lui annonce sa volonté de licencier une dizaine de collaborateurs. Dans la liste du président, on retrouve comme par hasard les noms de Nathalie Debaye et de Hubert Fayard. Officiellement, leur licenciement répond à un impératif économique. Officieusement, Jean-Marie Le Pen élimine des instances 2 proches collaborateurs de Bruno Maigret. Alors, que va faire Maigret? Va-t-il rentrer dans le rang et accepter que ses collaborateurs paient le prix de la révolte? Ou prendra-t-il l'initiative?
Nous pouvons faire d'actualité, nous, dans la tempête, si vous venez. Parce que quand tout se passe bien, personne ne parle de nous. D'ailleurs, les peuples heureux n'ont pas d'histoire. C'est bien connu.
Non, c'est pas une photo de mode. Salut.
Paris, 5 décembre 1998, maison de la chimie, Conseil national du Front national. L'ensemble de la presse attend l'ouverture du Conseil national pour entendre les réactions de chaque camp. Bruno Maigret, le délégué général, arrive le premier. Il ne dit pas mot, à l'inverse de Jean-Marie Le Pen qui lui succède quelques minutes plus tard. Alors, comment sent-il la journée ?
Monsieur Le Pen ?
Oh, vas-y.
Dans quel état d'esprit vous abordez ce Conseil national ?
Vous voyez, comme le ciel, là, bleu, avec du soleil.
Pourtant, il y a un malaise, enfin, de...
Écoutez, s'il y a un malaise, on va le passer. Pas de problème.
Si au rez-de-chaussée, devant les caméras, les sourires sont de circonstance, au premier étage, la tension est à son paroxysme. La discussion commence, puis elle est interrompue par une entrée inattendue. Arrivés par une porte dérobée et entourés de maigrettistes, les deux licenciés, Nathalie Debaille et Hubert Fayard, débarquent. Certains applaudissent, d'autres fustigent le coup de force. Jean-Marie Le Pen demande au service d'ordre de raccompagner ces personnes qui n'ont plus le droit d'être là. À la sortie du bâtiment, Nathalie Debaille s'exprime alors devant les journalistes, postulat d'une bataille qui ne fait que commencer.
Je suis rentrée, mes amis qui sont tous des gens formidables m'ont applaudi, m'ont acclamé. Et le président a demandé une suspension de séance jusqu'à ce que les gens indésirables dans cette salle en soient sortis. Il y a eu un tollé général et je suis sortie sous les applaudissements pour moi et sous le tollé pour le président. C'est la fameuse purge annoncée, la démaigrétisation, tout ce qui touche de près ou de loin de Bruno Maigret vont être, c'était Hubert et moi cette semaine et la semaine prochaine, ça ne fait aucun doute que ça va continuer.
Après plusieurs heures de débat, âpres et tendus, le Conseil national est clos. Les journalistes sont invités à assister à la conférence de presse traditionnelle de fin de conseil. Bruno Maigret n'est pas là. Accompagné de Bruno Gollnisch, Jean-Marie Le Pen joue le jeu des photos et des petites phrases off. Au sujet de la journée, il parle d'un simple coup de tabac. Selon lui, le Conseil national du FN s'est conclu sur une concorde retrouvée. Le président du Front national en profite pour faire une mise au point des informations qu'on peut lire ici ou là, dans la presse. Il réfute notamment l'authenticité du document publié par le journal Libération qui annonçait Bruno Maigret à la 10e position de la liste des européennes. Et il explique que celle-ci n'est toujours pas fixée. Il précise ensuite les raisons des licenciements, l'organisation de la campagne à venir, l'entente ou non avec Bruno Maigret. À l'en croire, tout est rentré dans l'ordre. Il le promet, le Front national sera uni pour les élections à venir. Au même moment, pourtant, Bruno Maigret débriefe la journée avec une partie de ses soutiens à l'hôtel Ibis Cambronne. Le délégué général invite ses partisans à se tenir prêts. Le 7 décembre, Serge Martinez, un proche de Bruno Maigret, convoque les journalistes. Face à la crise, il demande la tenue d'un congrès extraordinaire du parti et il cite l'article 24 des statuts du mouvement qui détaille les conditions d'organisation d'un congrès extraordinaire. L'une des possibilités est l'obtention des signatures de 20% des adhérents qui demandent la tenue de ce congrès. Il annonce qu'une demande écrite sera envoyée dans les jours qui viennent à l'ensemble des adhérents. Deux jours plus tard, à la maison des polytechniciens, Bruno Maigret fait le grand saut. Il appelle lui aussi à l'organisation d'un congrès extraordinaire. Cette fois c'est fait, la guerre de succession est ouverte.
Je demande solennellement à tous les adhérents, militants, cadres, élus du Front National, de signer la demande de convocation d'un congrès extraordinaire pour rétablir l'unité du mouvement. Le Front National n'appartient à personne. Il appartient aux militants, à tous les militants, quelle que soit leur position dans l'appareil. Cette initiative, elle n'est pas dirigée contre Jean-Marie Le Pen ou contre qui que ce soit. Il ne s'agit ni d'un putsch, ni d'une opération séditieuse, mais d'une démarche logique, naturelle et légitime en application stricte des statuts du mouvement. Je précise que je ne quitterai jamais le Front National, ni par une démission, ni par une exclusion. Et j'invite tous les membres de notre mouvement à en faire autant.
Le soir même, on apprend par voie de communiqué que Jean-Marie Le Pen démet Bruno Maigret de ses fonctions de délégué général. Le 11 décembre, à Saint-Cloud, Jean-Marie Le Pen s'exprime dans une longue conférence de presse. Et pour la première fois, le président frontiste semble touché, inquiet, mais refuse d'abandonner son paquebot. Il annonce la suspension de l'ensemble des responsables du complot et s'adresse directement aux adhérents de son parti.
J'entends donc assumer mes responsabilités dans leur plénitude. Je n'abandonnerai pas la barre du navire à une poignée de lieutenants et de quartiers-maîtres félons. Forts d'une autorité qu'eux-mêmes, en public, feignent aujourd'hui de reconnaître au président du Front National, j'ai décidé de les sanctionner en frappant la conjuration à la tête. À ma demande, le bureau exécutif a suspendu de leur qualité d'adhérents, en attendant leur comparution devant nos instances disciplinaires, messieurs Bruno Maigret, Jean-Yves Le Gallou, Philippe Olivier, Franck Timmermans, Serge Martinez. Je ne vous ai jamais menti, jamais abandonné, jamais trahi. Je suis un homme non d'extrême droite, mais d'extrême droiture. Confirmez-moi votre confiance.
Le soir même, Bruno Maigret est l'invité du 20h de TF1 pendant que le président frontiste, lui, répond aux journalistes d'Antenne 2. La presse, les studios radio et les plateaux de télé deviennent l'arrière-cour du duel entre les deux hommes. À ce petit jeu, Jean-Marie Le Pen est en territoire conquis. Il multiplie les interventions, collectionne les jeux de mots contre ses adversaires. La tirade qu'il affectionne tout particulièrement est l'histoire revisitée de Brutus et de César.
Ce qui me différencie de César, vers lequel s'approchait son fils spirituel Brutus, le poignard à la main, César prit sa tôle et s'en couvrit la tête avant d'être immolé. Moi, je sors mon épée et je tue Brutus.
Pendant un mois, les Français suivent jour après jour la scission du Front National. Au journal, chaque jour, on a droit à un nouvel épisode. Le 13 décembre, au micro du Club de la Presse d'Europe 1, Bruno Maigret annonce avoir obtenu le nombre de signatures nécessaires pour l'organisation du congrès extraordinaire. Le lendemain, Serge Martinez et d'autres personnes suspendues, maigrettistes, s'invitent au bureau politique du parti, accompagnés d'un huissier. Ambiance. Le soir même, France 2 organise dans l'émission Mots croisés un débat spécial avec des militants et des représentants de chaque camp. En guise d'introduction, Bruno Maigret est interrogé par Alain Duhamel et Arlette Chabot. Sa réponse est franche, violente.
Le problème, c'est de savoir ce qu'il faut faire du Front National. Nous ne voulons pas rester dans une opposition stérile qui orchestre la diabolisation du Front National pour rester dans un bunker confortable. Nous voulons lancer l'offensive pour arriver au pouvoir et pour engager la renaissance de notre pays. Et moi, je constate que Jean-Marie Le Pen, en ne supportant pas l'existence d'un grand mouvement politique, en voulant en rester à une petite entreprise familiale, bloque ce grand projet qui est le nôtre, qui est celui des militants et des cadres du mouvement. Et c'est la raison pour laquelle il y a aujourd'hui cette crise. Ce n'est pas des problèmes subalternes et méprisables, c'est simplement la volonté de tout ce peuple du Front National qui a fait d'immenses sacrifices depuis des années et des années de ne plus être en quelque sorte bridé par un président qui se comporte en monarque absolu et qui, au lieu de vouloir arriver au pouvoir, gère en patriarche familial un patrimoine qu'il croit personnel. Maintenant, c'est fini, et c'est la raison pour laquelle un conseil national extraordinaire a été réuni, qui a décidé d'organiser ce congrès, de nommer un administrateur général du Front National qui, en se substituant à Jean-Marie Le Pen, va organiser ce congrès. Ce congrès aura lieu au mois de janvier, et nous allons organiser ce front réel en laissant de côté le front résiduel.
Jean-Marie Le Pen n'ayant pas voulu participer à l'émission, c'est Bruno Gollnisch qui se charge de défendre son clan. Le secrétaire national du Front National réfute une nouvelle fois la méthode et les dernières déclarations des dissidents. Les conditions d'organisation du congrès extraordinaire ne correspondent pas, selon lui, au statut du parti. Si congrès extraordinaire il y a, il ne sera en rien un congrès du FN, mais un repère de dissidents. Staline n'aurait pas dit mieux. Pendant plus d'une heure, l'émission se poursuit, passant des représentants politiques du parti aux simples adhérents. C'est sans doute l'une des émissions politiques les plus surprenantes de la Ve République, car à la télévision, en direct, un parti politique tout entier se brise. À la fin de la soirée, une chose est sûre, entre les deux familles frontistes, le point de non-retour a été franchi. C'est la théorie du Rubicon.
Inscrit 2062, votant 1825, blanc 23, 1,26%, nul 46, 2,52%, Bruno Maigret, 1756 voix, 86, 22%, le nouveau président du Front National.
À Marignane, les 23 et 24 janvier 1999, se déroule le dernier acte de la scission Scission, le congrès extraordinaire du FNMN, Front National, Mouvement National. Bruno Maigret devient le second président du FN. Pendant deux jours, devant plus de 25 000 participants, les maigretistes réorganisent le parti selon leurs règles. Deux jours où ils font l'inventaire des années Le Pen, des victoires aux dérapages et aux erreurs de stratégie. Au lendemain du congrès, au FN version chimiquement pure, l'hémorragie des cadres est conséquente. 140 conseillers régionaux sur 275, 62 secrétaires fédéraux sur 102 quittent le paquebot du fondateur pour rejoindre les rangs de Bruno Maigret. Par la suite, la justice donnera raison à Jean-Marie Le Pen, lui accordant l'exclusivité de la marque FN. C'est désormais aux électeurs de trancher entre les deux hommes et les deux partis. Jean-Marie Le Pen remporte la première manche, celle des européennes, où il obtient 5 élus contre 0 pour le mouvement national de Bruno Maigret. Puis vient le 21 avril 2002 et son ascension au second tour de l'élection présidentielle. Ce soir-là, comme il l'avait annoncé, César a tué Brutus. Vitrolles fut la dernière victoire de Bruno Maigret, lui l'amoureux de Napoléon qui rêvait d'Austerlitz. Son aventure contre le fondateur du FN ne sera au final qu'un Waterloo, sans même l'onirisme des 100 jours. Aujourd'hui, une nouvelle crise de succession s'est ouverte au Front National. Shakespeare pourrait en tirer un nouveau drame et l'Empire romain en constituer le cadre métaphorique.
Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, le combat entre Jean-Marie Le Pen et Bruno Maigret à la fin des années 90 au sein du Front National, avec notre invité Guillaume Daudin. Bonjour.
Bonjour.
Journaliste à l'agence France Presse, spécialiste du Front National. Lors de notre première diffusion, tiens à ce propos, je rappelle que Affaires Sensibles propose chaque semaine une rediffusion, pas plus parfois. Les réseaux sociaux nous disent encore une diffusion. Non, monsieur, non, madame, une diffusion par semaine parce que la plupart des histoires que nous racontons ont besoin d'être contextualisées de nouveau, actualisées avec un nouveau regard. Et ce nouveau regard, vous l'incarnez aujourd'hui, Guillaume Daudin. Sur cette histoire, nous nous sommes focalisés pendant le récit sur le combat Le Pen-Maigret. Nous allons voir les résonances avec, aujourd'hui, bien entendu, cette scission avec le départ de Florian Philippot, donc du Front National actuel. Une constante tout de même, c'est une histoire de famille, le Front National. Et ça appartient, quand on veut le pouvoir, ou qu'on le prend, en tout cas quand on le veut, plutôt au République bananière, hein, c'est famille qui veulent le pouvoir. Nous, on est dans une république et déjà à l'époque, le siège est dans la maison des Le Pen. Il y a monsieur, il y a madame hein, qui est proposée. Maintenant, il y a la fille, il y a la nièce. C'est quand même quelque chose de très spécifique, ça.
Qu'on peut faire une donnée simple, le Front National est fondé en 1972. Nous sommes en 2017, il y a eu deux présidents, Jean-Marie Le Pen et puis sa fille Marine Le Pen. Et il y a eu aucune possibilité ou presque pour quelqu'un d'extérieur d'accéder au pouvoir, puisque Bruno Gollnisch a été en 2011 concurrent de Marine Le Pen. Bruno Gollnisch n'a pas été soutenu par Jean-Marie Le Pen, dont il était pourtant considéré par certains comme le dauphin naturel. Non, Jean-Marie Le Pen a soutenu sa fille Marine Le Pen, et depuis c'est elle qui tient le parti, certains disent d'une main de fer. Elle assure offrir la possibilité à toutes les voix de s'exprimer, mais oui, ça reste une affaire familiale. Et dans le récit qu'on avait, on voyait bien voilà ce moment où les réunions du parti, qui a un siège qui est à l'époque était situé à 200 mètres du domicile de Jean-Marie Le Pen, certaines réunions du parti se tenaient chez Jean-Marie Le Pen. Et maintenant, on sait que sous la présidence de Marine Le Pen, il continue à y avoir des réunions au domicile de Marine Le Pen, des réunions qui ont une importance pour le parti, une grande importance.
Et certains prêtent, à tort ou à raison, un grand avenir à Mario Maréchal Le Pen, qui est parti de la politique, mais peut-être pour mieux revenir, en tout cas, on verra. À l'époque de l'histoire que nous avons racontée, Marine Le Pen n'est pas en situation.
À l'époque, non. Marine Le Pen vient d'arriver à des responsabilités au sein du Front National. Elle est devenue directrice juridique quelques mois avant la scission. Elle était pendant 6 ans avocate au barreau de Paris. Et puis elle propose, elle raconte ça dans son autobiographie, elle propose de fonder un service juridique parce qu'il y a de nombreux contentieux. Et donc elle est une responsable, on va dire, qui émerge du Front National, mais elle est encore très peu connue. Sa sœur Marie-Caroline est à l'époque plus connue. Et Marine Le Pen, elle vient de se prendre un revers important lors d'un congrès du FN où il y a une élection au comité central, et sous l'influence des maigrettistes, elle n'est même pas élue parce que les maigrettistes se sont organisés pour qu'elle ne soit pas élue. Donc elle est à l'époque encore peu connue et peu influente au sein du Front National.
Alors, parallèle et résonance saisissante. Marine Le Pen rencontre Florian Philippot. Marine Le Pen aurait même parlé à propos de cette rencontre d'un coup de foudre. Et si mes souvenirs sont bons, lorsque Bruno Maigret et Jean-Marie Le Pen commencent à travailler ensemble, on les sent très proches ces deux-là, on se dit qu'ils sont complémentaires.
Absolument. Bruno Maigret apporte une caution technocratique au trublion Jean-Marie Le Pen. Il apporte une caution démocratique avec avec lui un certain nombre de personnes dans ses rangs qui viennent donner une touche de sérieux au Front National qui est à l'époque en train de progresser. Et c'est ce qui se passe avec Florian Philippot qui arrive dans l'entourage de Marine Le Pen en 2009. Il la rencontre en 2009, mais qui émerge au grand jour en 2011. Fin 2011, Florian Philippot, à peine connu, et aussitôt bombardé directeur de la campagne présidentielle, et dans un parti qui rejette assez constamment l'énarchie et qui rejette assez constamment la technocratie, l'énarque Florian Philippot devient immédiatement directeur de campagne présidentielle et devient un personnage central. Ça fait 2 ans qu'il est dans l'entourage de Marine Le Pen et qu'il la conseille, qu'il lui apporte de la structuration, des notes quotidiennes, des sondages aussi qui sont très importants. Il est accompagné de son frère Damien Philippot, qui lui reste beaucoup plus dans l'ombre, qui a émergé vraiment au grand jour pendant la campagne présidentielle 2017. Et voilà, les deux, à 20 ans, 25 ans de différence, il faut que je fasse le calcul, les deux apportent 19 ans, voilà, apportent cette caution technocratique supplémentaire de sérieux qui fait tendanciellement défaut au Front National.
Alors, que s'est-il passé? Est-ce qu'entre Marine Le Pen et Florian Philippot, il y a un conflit de personnes ou un conflit de lignes politiques sur le fond, sachant évidemment que la présidentielle de mai dernier a fait émerger tout ça? Quand on dit que les choses émergent, ça veut dire qu'elles existent avant d'émerger. C'est quoi la ligne de rupture? Alors, c'est du fond ou c'est une querelle de pouvoir?
Alors, si on écoute Florian Philippot est celui qui a annoncé sa démission. Donc, on va commencer par lui. Florian Philippot dira que...
Tiens, attendez, pardon, je vais vous couper. Puisque vous dites qu'il a annoncé sa démission, Florian Philippot, on va l'écouter. C'était le 21 septembre et c'était sur France 2 et on y revient après.
Bonjour Florian Philippot.
Bonjour.
En effet, Marine Le Pen vous a retiré vos délégations. Vous êtes aujourd'hui vice-président sans attribution, vice-président virtuel. Dans ces conditions, est-ce que vous pouvez rester au Front National?
Oui, on m'a dit que j'étais vice-président, donc à rien. Bah écoutez, je n'ai pas le goût du ridicule et je n'ai jamais eu le goût de ne rien faire. Donc bien sûr, je quitte le Front National.
C'est une sanction à laquelle vous attendiez?
Je voyais la mayonnaise monter. J'essayais, moi, de préserver l'unité, d'aller vers le sens de la sérénité des débats en expliquant que diriger une association, loi 1901, dans le cadre d'un parti qui vise à faire débattre des gens, à aller dans le même sens tout à fait que le Front National, il n'y a jamais eu une divergence, et à aider sa communication sur des sujets essentiels, c'était important. Et j'ai eu face à moi à chaque fois de nouveaux arguments. Donc j'ai fini par comprendre, en conclure que c'était un prétexte, cette histoire d'association, et qu'il y avait un problème de fond.
Voilà comment on m'a mis au placard. Bien, alors continuez.
Florian Philippot, voilà, annonce sa démission et... Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit le Front National, depuis un an, depuis le début de la préparation de la campagne présidentielle, a commencé à évoluer en toile de fond sur sa ligne et a commencé à se détacher de quelque chose qui lui paraît cardinal, à savoir la nécessité de sortir de l'Union européenne, la nécessité de sortir de l'euro. Il dit donc il y a un changement de ligne qui est en cours. Qui n'est pas de son initiative et face à ce changement de ligne, lui ne peut pas rester.
C'est-à-dire, non, finalement, on ne va pas quitter l'Europe.
C'est voilà, ça le changement de ligne. Voilà, c'est d'accord. Ça le changement de ligne. Le Front National décide et c'est en ce moment en train d'être acté ou en tout cas d'être habillé. Voilà, le Front National est en train de changer de ligne, de dire que il est nécessaire d'entendre le message des électeurs au second tour, et ce message, selon Marine Le Pen, selon les dirigeants actuels du Front National, c'est on ne veut pas de la sortie de l'euro, on ne veut pas de la sortie de l'Union européenne. Et Florent Philippot dit je ne suis pas d'accord avec ça, donc je m'en vais. Il rajoute quand même une dimension personnelle en disant un certain nombre de dirigeants du Front ont toujours eu un problème avec lui et que ils ont cherché par tous les moyens à le faire partir, et le prétexte, c'est son mot, le prétexte qui a été invoqué, la création d'une association Les Patriotes, c'est un prétexte, voilà. Il n'y avait pas de raison de lui retirer des responsabilités à cause de ça. Et pourtant, ça a été fait. Donc voilà, il part. Marine Le Pen, elle, d'un autre côté, dit c'est plutôt quelque chose de personnel. On change pas vraiment de ligne. On va rester sur une ligne de souveraineté. Mais en même temps, on entend le message des électeurs. Et elle dit Florian Philippot, c'est son droit. Il a envie d'avoir une petite boutique personnelle. Je lui en veux pas. Il aurait pu y mettre les formes. Il aurait pu me prévenir. On aurait pu s'associer avec un mouvement qu'il aurait fondé. Enfin voilà, elle dit ça, ouais. J'aurais parfaitement
après, compris. Bon. D'accord. Alors, je raccroche les wagons avec, si tant est qu'il y ait une raison d'ailleurs de les raccrocher, avec Maigret. Est-ce qu'il y a des anciens maigrettistes au sein du Front National, et comment se positionnent-ils par rapport à la ligne Le Pen et à la ligne Philippot ?
Alors, les anciens maigrettistes, c'est un peu l'une des facéties de l'histoire, sont là et ont des rôles relativement importants. Alors on va épargner le maire d'Hénin-Beaumont, Steve Briouat, qui est revenu très vite dans le giron frontiste, et on va s'attarder sur deux personnages qui ont des fonctions importantes au sein du Front National. Il y a Nicolas Bay, qui était jusqu'à il y a peu secrétaire général, donc patron de l'administration du parti, et qui est désormais vice-président chargé des affaires européennes, un sujet qui est assez sensible au Front National. Oui. Nicolas Bay, on l'a souvent présenté comme le numéro 3 du parti. Nicolas Bay, il est revenu par la petite porte à la fin des années 2000, avant de reprendre des vraies responsabilités fin 2014, de prendre ce poste de secrétaire général. Et puis, il y a un autre personnage dont on a entendu le nom dans le récit tout à l'heure, c'est Philippe Olivier.
Beau-frère de Marine.
Frère de Marine Le Pen, Philippe Olivier était cité en troisième position par Jean-Marie Le Pen en décembre 98 dans la liste des personnes qu'il, je crois, démettait de ses responsabilités. Philippe Olivier est donc parti du front avec l'aventure maigrettiste. Il a eu, comme Nicolas Bay, des fonctions dans cette aventure maigrettiste, et c'était l'un des principaux lieutenants. Et Philippe Olivier, finalement, puisque cette aventure a quand même largement échoué, est revenu au tournant des années 2010 dans l'entourage de Marine Le Pen. Il a fait des allers-retours. Il est souvent présenté comme quelqu'un ayant un caractère un peu difficile et du coup qui a du mal à travailler en équipe. Il est revenu, puis il est un peu reparti, et puis il est revenu au régional de 2015 pour de bon.
Mais là, vous vous attachez à des hommes, c'est parce que ils sont très influents.
Ils sont influents.
Et qu'est-ce voilà
Philippe Olivier, donc Nicolas Bay est très influent.
Bon, alors ils amènent le Front National dans quelle direction à votre
avis ? Eh bien, ils sont tous deux, mais ils ne sont pas les seuls. Marion Maréchal Le Pen était un peu là-dessus, tenant d'une ligne plus traditionnelle, plus les détracteurs disent identitaire, c'est-à-dire plus conservatrice sociétalement, et en même temps plus libérale économiquement. Et ça, ce n'est pas la ligne de Florian Philippot, qui lui est sur quelque chose plus social et plus anti-Union européenne.
C'est la ligne de Jean-Marie Le Pen, ce que vous dites. Alors, il se trouve que la statue du commandeur, ce qui constitue un problème politique, évidemment que politique, elle est vivante. Donc, il y a quand même, ça brouille le message.
Jean-Marie Le Pen est là, mais il n'a plus, moi, j'ai pas l'impression qu'il ait encore un très grand rôle politique. Il a plus un pouvoir de nuisance sur le Front National, mais il ne se présente plus en tant que candidat, etc.
Oui, mais la ligne de B et d'Olivier, c'est la ligne de Jean-Marie Le Pen quand même.
C'est encore un peu différent, mais c'est vraiment une ligne plus... c'est pas vraiment le front traditionnel. C'est ça qui est un peu un retour de l'histoire, puisque vous me demandez si c'est la ligne de Jean-Marie Le Pen, et pourtant ils sont partis avec Bruno Maigret. Donc c'est ça qui est un peu paradoxal. Ils sont sur une ligne plus identitaire, plus parfois catholique aussi, et ils sont sur une ligne surtout qui est assez divergente avec celle de Marine Le Pen, qui, elle, a des idées assez comparables à celles de Florian Philippot. C'est ça qui est assez intéressant. Pourtant, eux sont toujours là. Philippe Olivier, discret médiatiquement, est présenté actuellement comme l'un des principaux conseillers, si ce n'est le principal conseiller de Marine Le Pen. Et Nicolas Bay aussi est influent au sein du front, à des troupes.
Alors, la question que ça pose deux questions maintenant. Est-ce que le Front National est capable de gagner une présidentielle à l'avenir? Et avec qui? Donc ça pose aussi la question Marine Le Pen, après son échec à la dernière présidentielle. On va l'écouter, Marine Le Pen, c'était le 21 septembre, lors de l'émission Questions d'info sur LCP, la chaîne parlementaire. Elle réagit à la question, justement, sur sa légitimité à présider le parti et à mener la bataille des prochaines élections, avec évidemment en ligne de mire la présidentielle.
Au-delà de ce départ emblématique de Florian Philippot, on entend quand même une petite musique chez certains ténors du FN qui dit en gros Marine Le Pen, c'est pas forcément la candidate naturelle pour 2022.
Qui dit ça au Front National?
Ils le disent de façon...
Le seul que j'ai entendu dire ça, c'est Robert Ménard, qui n'est pas au Front National. Mais et alors? Ils ont le droit de le dire. Enfin, écoutez, on peut pas encore une fois lancer un grand débat et ne pas accepter les avis, les opinions et même les critiques. Moi, je les accepte. Moi, j'entends parfaitement ceux qui s'interrogent en disant « Mais après tout, est-ce que Marine Le Pen est la mieux placée ?» Moi, je pense que je suis la mieux placée. Et c'est la 2022, raison pour laquelle moi, je suis candidate à la présidence du Front National. Je remets en jeu mon mandat parce que je suis profondément respectueuse de l'avis des adhérents et de la démocratie. Et si je le fais, c'est parce que je pense que je suis la plus solide.
Mais Le Pen ont un certain talent pour la rhétorique quand même, hein, parce qu'elle s'en sort plutôt bien. Elle dit, non, c'est la démocratie, c'est très bien. Enfin, c'est quand même moi la meilleure. Ça rappelle beaucoup son père aussi. Hein.
Elle dit, c'est intéressant, elle dit, je remets mon mandat en jeu et après tout, il peut y avoir des candidatures face à moi. Donc on est aujourd'hui le 17 octobre. Le 20 octobre, vendredi, il va y avoir, c'est la clôture des candidatures et a priori, elle sera seule candidate à sa réélection parce que le système au Front National est très compliqué pour candidater face au grand chef. Et du coup, elle peut dire à juste titre qu'elle est ouverte à d'autres candidatures, mais elle sera seule candidate à sa succession. Et celui qui oserait porter une candidature face à elle, ça serait très difficile de réunir les conditions et ça serait peut-être assez mal vu en interne.
Ouais. Néanmoins, elle accède au second tour de la présidentielle. Souvent, ça peut être le début d'une grande carrière. Sauf que elle perd lourdement, hein, avec 35% des voix. Et puis, elle se plante, il n'y a pas d'autre mot, hein, pendant le débat. Est-ce qu'elle reste légitime? C'est ça la vraie question.
La légitimité.
C'est légitimité d'appareil, oui, mais la légitimité politique. Est-ce qu'on se remet d'une défaite comme celle-là?
Elle a incontestablement le débat a été un coup de semonce dont les frontistes parlent encore. Aujourd'hui, il y avait un maire FN qui a fait une tribune pour dire « Oui, Marine Le Pen a raté le débat, mais c'est pas grave, je la soutiens quand même et je continuerai à la soutenir ». Voilà, on est 5 mois après le débat, 5 mois après le second tour. Et on continue à en parler, et ça continue à l'handicaper. Et maintenant, il y a le départ de Florian Philippot, qui part avec peu de troupes, on va peut-être en parler, peu de troupes, mais...
On va parler de ça, puis on va finir, parce qu'il est l'heure.
Qui emmène une caution technocratique, une caution de pouvoir, et qui donne l'impression d'un parti qui, incontestablement, s'affaiblit plutôt qu'il se renforce après l'élection.
Alors, je ne vais pas vous demander de faire un pronostic, parce que ce n'est pas le rôle d'un journaliste, mais enfin, vous estimez que Florian Philippot peut... emmener un certain nombre d'adhésions et faire quelque chose.
J'ai du mal à le croire en fait, mais je crois que son départ affaiblit par ailleurs Marine Le Pen et que du coup ce départ affaiblit les deux structures, les deux personnalités politiques, Marine Le Pen pardon et Florian Philippot. Les deux sont affaiblis par ce départ.
Merci infiniment hein, Guillaume Dodin, merci de vos éclairages sur cette affaire au sein du Front National. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, la scission Le Pen-Maigret, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Merci à Patrick Henry qui était à la technique aujourd'hui. Demain, nous resterons dans la politique. Nous évoquerons la conquête du pouvoir par Nicolas Sarkozy, le chemin qui de 2002 à 2007 l'a conduit à l'Élysée.